distributeur. Vous feriez drôle, comme le disait M. l'abbé de la Cosse au début de cette matinée. M. l'abbé Jean-Michel Glaise est professeur d'ecclésiologie au séminaire d'école et il va nous parler justement de l'Église, de l'unité de l'Église et savoir si cette unité est menacée par les fidèles, les prêtres attachés à la tradition. Monsieur l'abbé, à vous.
Merci monsieur l'abbé. L'intitulé de ma conférence est le suivant. Alors il y a deux parties, vous m'avez donné en quelque sorte aimablement suggéré le plan. La messe de Saint-Pie V, c'est une première question, divise-t-elle l'Église? Et cette première question est suivie d'une deuxième. Deux messes font-elles deux ecclésiologies? Alors je vais centrer mon propos sur ces deux questions. Dans un premier temps, nous allons nous demander si cette messe, ou plus exactement, nous allons l'expliquer par la suite, plus exactement ce missel. Parce que le mot-clé qui revient dans tous les textes, c'est le missel. Et nous verrons ce qu'il en est précisément. Donc c'est ce missel de Saint-Pie V, divise-t-il l'Église? Et je précise tout de suite qu'il s'agit ici, bien entendu, dans un premier temps, de l'Église conciliaire. Parce que le problème, il est là. L'Église catholique demeure ce qu'elle est. Par la grâce de Dieu, et il faut quand même le rappeler, je pense, le zèle pastoral de Mgr Lefebvre. Y a-t-il, autrement dit, je reformule la question de façon plus précise, y a-t-il une opposition entre le motu proprio de Benoît XVI et celui de François? Parce que s'il y a une opposition, il faut la surmonter, et donc nous devons espérer un nouveau Benoît XVI. Et nous allons voir que même si cette espérance correspond chez certains à une très bonne volonté, il ne s'agit pas de cela, nous sommes au niveau des principes. Indépendamment de ces bonnes volontés et de ces espérances humaines, hélas, trop humaines, qui sont bonnes, indépendamment de cela, il y a un leurre. Parce qu'il n'y a pas d'opposition à surmonter. Il n'y a pas d'opposition à surmonter, précisément. Nous allons donc répondre non, parce que cette Église conciliaire, c'est ce que nous allons voir en détail, aussi bien chez Benoît XVI que chez François, est unie, je vais insister là-dessus, elle est unanime sur les principes. Bien sûr, il peut y avoir des divergences de détails sur l'accessoire, mais sur le principe, cette Église conciliaire est unie dans la manière dont elle entend considérer et traiter la messe de Saint-Pie V, le missel. Et de Benoît XVI à François, ce missel de Saint-Pie V est considéré, alors n'ayons pas peur des mots, parce que prenons-les pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire comme des véhicules d'une idée, soyons au-delà des flashs, c'est quelque chose d'anormal, au sens le plus étymologique du terme. Ça veut dire que ce n'est pas la norme, et c'est une chose que Benoît XVI rappelle dès l'article 1 de son motu proprio. Nous en sommes désolés, c'est entendu, mais nous ne sommes pas là pour faire étalage de nos affects. Hein. Nous sommes là pour remonter à des principes afin de rester lucides. Et rester lucide, vous le savez, c'est la première condition pour rester charitable. Et nous venons l'être, justement. Nous voulons l'être. Parce que nous croyons à cette charité que notre fondateur nous a transmise. Donc, l'Église conciliaire est unie, il y a une convergence de vues pour regarder ce missel de Saint-Pie V comme quelque chose qui est anormal au sens étymologique, parce que ce n'est pas la norme, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que nous allons expliquer. Et puis dans un deuxième temps, si le temps nous reste, mais nous résumerons, nous verrons qu'il y a tout de même une division, mais elle est ailleurs. Elle n'est pas à l'intérieur de cette Église conciliaire, c'est que cette Église conciliaire est elle-même le facteur de division. Division introduite par le Concile, principe et fondement de cette Église conciliaire, qui en tant que telle est un facteur de division ou de rupture, si vous préférez. Et cette division a précisément lieu dans la loi de la croyance. Et en particulier, nous allons le voir dans ce qu'il faut croire au sujet de l'Église, et donc dans l'ecclésiologie. Et c'est précisément cette division au niveau de la loi de la croyance qui se répercute au niveau de la loi de la prière. Et la division n'a pas lieu entre Demotu Proprio, entre Benoît XVI et François, elle a précisément lieu, bel et bien, non pas dans la manière dont on entend traiter ce missel à l'intérieur de l'Église conciliaire, mais entre le missel de Saint Pie V et le nouveau missel. Et la normalité de la messe de Saint Pie V, ou son caractère désormais extraordinaire aux yeux de ces papes conciliaires, n'est que la conséquence de cette rupture au niveau de la loi de la croyance, c'est-à-dire au niveau de l'idée que l'on se fait de l'Église. Alors, dans ma première partie, qui comportera successivement, c'est pour que vous puissiez suivre, je crois que j'ai mis 6 points, oui, il y en a 6. Je vais donc examiner le rapport entre les deux missels et essayer de répondre à cette question. La messe de Saint Pie V divise-t-elle l'Église conciliaire? Y a-t-il une opposition entre les deux motu proprio? Alors, premier point, il semblerait que oui, évidemment. Il semblerait que oui. Et c'est d'ailleurs ce que font valoir, de façon plus ou moins explicite, plus ou moins timide, les responsables de la mouvance Ecclesia Dei. Pourquoi? Parce que nous sommes passés, c'est ce qui a frappé de prime abord, le regard médiatique, qui reste malheureusement trop superficiel, nous sommes passés d'un élargissement très libéral à une restriction drastique. S'agissant, il faut tout de suite le préciser, des mesures d'une pratique. Et nous allons voir que, à ce niveau-là, les abrogations sont toujours possibles, au niveau du droit. La division, s'il y en a une, n'est donc pas dans une rupture à ce niveau, parce que la discipline évolue. D'autant moins que, c'est ce que nous avons montré, ces deux déterminations pratiques apparemment opposées correspondent l'une et l'autre au même point de vue doctrinal. Alors, ce principe est le même, ce principe doctrinal, au-delà d'une formulation qui n'est pas exactement la même. François nous dit, les livres liturgiques, alors j'insiste tout de suite, nous allons l'expliquer ensuite, ce sera le deuxième point, il s'agit des livres, il s'agit du missel, et il s'agit donc d'une expression écrite. Les livres liturgiques promulgués par Paul VI et Jean-Paul II, conformément au décret du Concile Vatican II, sont la seule expression de la lex orandi du rite romain. Benoît XVI disait, le missel romain promulgué par Paul VI est l'expression ordinaire de la lex orandi, tandis que le missel romain promulgué par Saint Pie V, alors j'insiste sur un point sur lequel je vais revenir ensuite, doit être considéré. En latin, vous avez un abeatur, un subjonctif, qui correspond à une intimation. Doit être considéré comme expression extraordinaire de la même lex orandi de l'Église et être vénéré en raison de son usage vénérable antique. Alors, c'est mon deuxième point. Avant d'essayer d'y voir un peu plus clair, je vais vous donner quelques précisions qui nous donneront justement le moyen de cette clarté. Et ces précisions, ce sont en définitive trois définitions de base. D'abord, qu'est-ce qu'un rite? On parle du rite romain. Le rite, c'est quelque chose que l'on fait. C'est quelque chose de pratique, c'est une action, une activité. Et c'est précisément un ensemble d'actions sacrées et symboliques, c'est-à-dire des paroles, des gestes, et ce sont même des objets que l'on utilise, que l'on manipule, qui sont répétés régulièrement selon des formes déterminées et stables. Et l'ensemble de cette pratique équivaut à un acte qui est globalement signifiant. C'est ça un rite. Un rite, c'est un signe qui intègre un ensemble de paroles et de gestes. Et cette signification, dans le cas du rite religieux, est celle de l'hommage de dépendance que nous entendons proclamer à l'égard du Créateur. S'il s'agit du simple rite religieux dans un ordre naturel, et s'il s'agit du rite religieux dans un ordre surnaturel, celui de l'Église catholique, eh bien, il s'agit de l'expression de notre dépendance à l'égard non seulement de Dieu qui est notre Créateur, le principe premier de tout être, mais également à l'égard de Jésus-Christ qui est notre Rédempteur. Donc voilà le rite. Ensuite, qu'est-ce que c'est que la lex orandi, la loi de la prière, ou encore ce qu'on appelle un ordo, lorsque l'on parle de l'ordo missé. C'est une loi, c'est une règle à laquelle doit se conformer le rite, c'est-à-dire les formes déterminées et stables dont je viens de parler, selon lesquelles on doit accomplir les gestes et les paroles. Donc en quelque sorte, la lex orandi, c'est la règle qui nous dit comment procéder au rite, qui fixe la pratique. Et enfin, les livres liturgiques, troisième définition, et spécialement le missel, eh bien ce sont l'expression, c'est-à-dire la mise par écrit de cette loi, de cette lex orandi, ou de cette ordo. Donc nous avons donc en résumé une pratique, une manière de faire, qui est déterminée par une loi, et cette loi est mise par écrit dans un livre qui s'appelle le missel. D'où la différence entre le rite, la lex orandi, et le missel. Le missel est donc l'expression de la loi écrite à laquelle doit se conformer la célébration de la messe, l'action sacrée qui fait la messe. François nous dit donc que le missel de Paul VI est la seule expression de cette lex orandi du rite romain. Et Benoît XVI nous dit que le missel de Paul VI est celui de Saint Pie V. Alors, c'est très précis. C'est la chose sur laquelle il faut porter notre attention. Ce sont les deux expressions de la même loi orandi, lex orandi, du même rite de l'Église. Donc la divergence serait seulement au niveau des formulations écrites. À telle enseigne qu'il y aurait non pas deux rites, et nous allons voir que Benoît XVI le dit très fermement, il n'y a pas deux rites, il n'y a pas non plus deux lex orandi, deux règles du même rite. Il y a simplement deux expressions de la même règle, du même rite. Ça veut dire que la différence serait seulement dans la formulation écrite. Et, en définitive, la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que on va signifier la même chose. Et j'en arrive à mon troisième point. Ces distinctions, ces définitions nous donnent la clarté qui nous permettent de voir, de comprendre que dans l'esprit de ces deux papes, eh bien l'opposition n'est qu'apparente. Elle n'est apparente pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, le pape François, retenons-le bien, c'est important, le pape François, tout en disant que le missel de Paul VI est la seule expression de la lex orandi, du rite romain, en même temps, ce même pape François maintient l'usage du missel de Saint Pie V comme une autre expression toujours possible de cette même lex orandi. Alors il la maintient évidemment à des conditions très dures, très restrictives, mais il la maintient. Il ne la supprime pas. Et donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'il y a toujours deux missels. Simplement ce qui est changé, c'est la prévalence de principes déjà affirmés par le pape Benoît XVI d'un missel sur l'autre. Mais les deux missels existent toujours et sont toujours possibles. Et donc la solution, c'est de distinguer, comme l'a fait Benoît XVI, entre une forme ou une expression ordinaire, d'une part, et d'autre part, une forme ou une expression extraordinaire. Si j'ose dire, le grand mérite du motu proprio de François, c'est d'attirer notre attention sur cette distinction qui a peut-être fini par être reléguée au second point et nous inciter à en approfondir la signification. François insiste sur le fait qu'il n'y a qu'une seule forme ordinaire pour le rite romain, une forme ordinaire, et que cette forme est précisément celle du missel de Paul VI. Tandis qu'il ne le dit pas, mais c'est sous-jacent, c'est implicite. Et si l'on compare les deux motu proprio, et si l'on scrute celui de François, on peut expliciter l'idée. Il ne le dit pas, mais c'est implicite. Le missel de Saint Pie V ne demeure que la forme seulement extraordinaire de cette voie de la prière. Et d'ailleurs, Benoît XVI insistera sur cette idée. Vous trouvez cela en 2016, dans ses dernières conversations avec le journaliste allemand Peter Sibald. Benoît XVI insiste sur cette idée en disant, je le cite, « Il ne faut pas croire qu'il existe désormais une autre messe. Ce sont deux manières de l'interpréter rituellement qui s'inscrivent cependant dans un unique rite fondamental. » Et il y a donc, c'est ce qu'il veut dire, un unique rite fondamental de, je cite, le Nouveau Catéchisme, au numéro 1345, un rite fondamental de la messe de tous les siècles. Et ce qui change, c'est simplement, nous disent-ils, l'expression écrite de la loi qui règle ce rite. Alors, j'en arrive à mon quatrième point. Nous avons ici la clarté, c'est-à-dire que la contradiction n'est qu'apparente, et ce qui serait inconcevable et réellement contradictoire, et ce qui diviserait l'Église en divisant sa liturgie, eh bien ce serait précisément l'usage simultané de plusieurs missels différents qui se présenteraient comme autant d'expressions ordinaires de l'unique rite de la messe, de l'unique rite romain. Et c'est d'ailleurs, et voilà peut-être la chose qui éclaire notre sujet, c'est d'ailleurs pour remédier à une pareille situation, gravement défectueuse et contradictoire, que précisément en 1570, le pape Saint Pie V, en application d'une demande exprimée par le Concile de Trente, a, c'est le sens du mot, le mot est important, a restitué le missel romain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire restituer ? Eh bien, cela veut dire qu'il a ramené à une seule expression ordinaire de l'unique rite de l'Église les différentes expressions qui se prétendaient ordinaires et qui se paralysaient les unes les autres dans une vaste cacophonie, une vaste anarchie. Et dans la bulle Quo Primum Tempore de Saint Pie V a donc lié de façon exclusive le fait de célébrer selon le rite de l'Église avec l'usage du missel publié par le pape. Et désormais aucune célébration ne pourra être accomplie, et surtout en utilisant un autre missel que celui-ci, une autre expression écrite fixant la loi régulant ce rite. Même, et c'est le sens de ce ton si exclusif, si définitif de la bulle Quo Primum Tempore, pas même un autre missel pourtant auparavant déjà en usage. Parce que le souci de Saint Pie V, on le comprend, c'est de ramener les choses à l'unité et de favoriser cette unité en donnant une seule et même expression de la loi qui règle la célébration de la messe. Le pape veut donc réaliser cette unité, y revenir. Il s'agit de l'unité de la loi de la prière, et il le fait par le moyen très concret du missel, qui est l'expression écrite et concrète de cette loi. Missel qu'il fait lui-même rédiger par un groupe d'experts. Et nous avons là pour la première fois ce qui sera désormais la norme ordinaire, unique, l'usage du missel romain typique, une édition que l'on qualifiera de typique pour désigner qu'elle est le principe d'unité dans cette expression de la loi de la prière, instrument de l'unité liturgique. Et donc, voyez-vous, si nous tenons le fil momentanément isolé, abstrait, il faudra ensuite ouvrir notre perspective sur d'autres points de vue essentiels, mais si nous nous contenons, si nous fixons notre attention sur ce fil juridique de la pratique disciplinaire de l'Église et de ses principes, eh bien, quelle fut l'intention de Paul VI en 1969 ? Eh bien, ça a été tout simplement de faire la même chose, de préserver l'unité liturgique de l'Église en préservant son expression écrite. L'intention de Paul VI a été de promulguer une nouvelle édition typique du missel romain, un nouveau missel qui devait prendre la place du précédent, le missel de Saint-Pie V, déjà d'ailleurs révisé, ne l'oublions pas, entre Saint-Pie V lui-même et Pie XII. Il y a eu des réformes liturgiques, certes sur des points de détail, ce n'est pas l'ensemble du missel qui a été révisé, mais tout de même. Et donc c'est bien la preuve que la révision est possible. Songeons en 1956 à une réforme que Mgr Lefebvre regrettait, mais à laquelle il s'est soumis, la suppression de l'octave de l'Épiphanie. Dans une conférence à Icône, lors d'une retraite prêchée lors de la Semaine Sainte, si je ne m'abuse, c'est la dernière retraite que Mgr Lefebvre a prêchée de son vivant, il exprime son regret à l'égard de cette réforme. Il trouve dommage que l'on ait supprimé l'octave de l'Épiphanie. C'est bien dommage, il faut l'avouer. Mais n'empêche qu'il s'est soumis, parce que c'était une réforme légitime. Et donc, dans l'esprit de Paul VI, il ne s'agissait pas du tout, absolument pas, d'interdire ou d'abroger le missel de Saint-Pie V, il s'agissait de maintenir en principe, vous comprenez bien, j'explicite ici l'intention du pape, je ne dis pas que cette intention est bonne, nous allons ensuite voir ce qu'il en est, mais ne perdons pas le fil directeur. Il s'agissait de maintenir en principe le principe doctrinal de l'unité du missel romain, principe énoncé par Saint-Pie V lui-même. Et sur ce point de vue-là, il y a, il faut le reconnaître, parfaite continuité. Simplement, la continuité est très relative, elle est très accessoire. Et elle peut même être l'occasion, dans l'heure, d'une illusion. Et dès lors, c'est mon cinquième point, très logiquement, il devenait nécessaire d'obtenir une autorisation expresse de Rome pour pouvoir continuer à user du missel de Saint-Pie V. Et c'est ainsi que nous allons, Paul VI va inaugurer, par le fait même qu'il restituait ce nouveau missel, par le fait même, Paul VI allait inaugurer cette série d'indultes, de permissions, dont la série successive devait culminer avec le motu proprio de Benoît XVI. C'est déjà, nous en parlerons tout à l'heure, la réponse de la Sacrée Congrégation du culte divin aux questions posées par l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame le 11 juin 1970, et c'est ensuite surtout l'indulte accordé par Paul VI en 1972 à la demande des personnalités du monde de la culture, et moyennant lequel l'usage du missel de Saint-Pie V put être utilisé en Angleterre avec la permission de l'évêque diocésain. Et c'est tout à fait logique. Ce genre d'exception ou d'autorisation expresse va se répéter sous Jean-Paul II avec les deux le motu proprio de 1984, celui le motu proprio de 1988 qui est à la fondation des communautés ecclésiadei, et toujours avec le même souci d'unité, l'exception doit confirmer la règle. En telle enseigne que, c'est mon dernier sixième point dans cette première partie, à telle enseigne que le motu proprio de Benoît XVI ne fera que donner sa formulation définitive, ne fera que cristalliser, pour ainsi dire, ce genre d'initiative. Il s'inscrit dans cette logique des motu proprio et des indultes précédents, avec seulement une précision beaucoup plus grande et beaucoup plus remarquable, et qui correspond bien à l'esprit de rigueur de Benoît XVI, hein, qui est un homme extrêmement précis et qui a un grand souci de théologie. Hein. Le missel romain promulgué par Paul VI est l'expression ordinaire de la Lex Orandi, et le missel de Saint-Pie V, je reviens ici à l'expression à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, doit être considéré, abeatur ut, comme expression extraordinaire de la même Lex Orandi. Alors, sur ce doigt, abeatur ut, celui qui est actuellement dans le diocèse de Paris, un petit peu la référence en matière de théologie sacramentaire, le père Pascal Thuillet, chargé d'enseignement en théologie à l'Institut catholique de Paris et à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins, le père Pascal Thuillet a fait part dans une conférence qu'il donna le 3 septembre 2020 et qui fut publié dans la revue de la communauté de l'Emmanuel, Il est vivant, numéro 348, le père Pascal Thuillet exprime son inquiétude. la liturgie, l'Église en prière. C'est l'intitulé de cet article. Et le père Tullier, eh bien, voit dans cette expression du motu proprio de Benoît XVI un droit. Un droit, et il ne le dit pas explicitement, mais cela rejoint tout à fait ce qui a été dit dernièrement dans le journal La Croix, sous la plume de cette journaliste, n'est-ce pas ? Ce droit menace, ce droit où on sortirait de l'ordre de la concession, de l'indulte et de l'exception, ce qui n'était que concession sous Jean-Paul II, deviendrait tout en coup un droit sous son successeur, eh bien cela est inquiétant parce que cela menace l'unité liturgique de l'Église. Et alors, évidemment, quand on lit dans son intégrité le motu proprio de Benoît XVI, eh bien, on s'aperçoit que ce habeatur ut doit se prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une clause de style, une formulation purement rhétorique et non pas une formulation juridique. Je vous cite simplement cette petite remarque du père Pascal Tuilier qui me semble très intéressante, caractéristique en tout cas de son esprit de finesse. Dans un monde contemporain où le régime habituel est celui du libre choix et d'une grande distance à l'égard des institutions régulatrices, y compris sur le plan ecclésial, la vigilance sur les manières de célébrer et le discernement quant à l'impact des pratiques est absolument nécessaire. Nous avons là un principe qui est vrai, mais qui est appliqué évidemment dans un contexte faussé. Mais le principe est vrai. Et c'est précisément ce que nous revendiquons. Nous ne réclamons pas, n'est-ce pas, une espèce de liberté religieuse en matière liturgique. Pas du tout, absolument pas. Nous allons le dire ensuite. Il ne s'agit pas de cela. Et si nous réclamions cela, il faut bien le reconnaître, le propos du père Pascal Tuillier pourrait, tout à fait à juste titre, dénoncer chez nous ce qui serait une attitude désordonnée. Pas très logique en tout cas. Et en définitive, ce que nous devons retenir au-delà de cette formule rhétorique « habeatur ut », j'y verrai pour ma part la simple expression d'un encouragement, d'une bienveillance. Parce qu'on le sait, Benoît XVI était bienveillant. Hein, à l'égard de ces pauvres fidèles traditionalistes dont il trouvait qu'on les avait trop durement traités. Mais pas plus que cela. Pas plus que cela. Expression, si l'on veut, d'un encouragement, d'une bienveillance, mais qui doit prendre place dans un cadre juridique extrêmement clair. Cadre juridique qui se résume avec cette distinction entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Et ce sont justement des expressions qu'il faut entendre dans un sens strictement théologique, ne l'oublions pas. Benoît XVI est un homme rigoureux, c'est un théologien. Il ne s'agit pas d'expressions qu'il faudrait entendre dans un sens sociologique, factuel. Extraordinaire au sens où la célébration de ce rite concernerait de fait un petit nombre de personnes, du moins pour l'instant. Extraordinaire encore au sens où la célébration de ce rite se réaliserait de fait rarement. C'est peut-être le cas, ce n'est peut-être pas le cas, mais il ne s'agit pas de cela. L'expression d'ordinaire et d'extraordinaire doivent s'entendre sur le plan des principes, au sens de ce qui correspond à la norme, de ce qui est normal, de ce qui est dans l'ordre des choses, de ce qui correspond à l'essence profonde d'une réalité ou d'un processus. Et donc, quelque chose de permanent, quelque chose de durable. Voilà ce qui est ordinaire. Et ce qui est extraordinaire, eh bien, c'est l'inverse. C'est ce qui n'est pas normal, ce qui est une exception, ce qui n'est pas appelé à durer, ce qui n'est pas appelé à demeurer permanent. Voilà le sens des termes, le sens théologique. Et donc, la forme extraordinaire tient à des circonstances. Et c'est d'ailleurs ce que Benoît XVI a très clairement déclaré dans l'avion. Alors, dans l'avion, c'était en 2008. Hein. Et le pape François n'avait pas encore popularisé ce genre de magistère. Alors, on pouvait à l'époque se récrier en disant « Ah mais non, ce sont des propos tenus à des journalistes ». Ce n'est pas du magistère, on ne peut pas se baser là-dessus. Mais n'empêche qu'il l'a dit. Et en le disant, il a clairement exprimé son intention. Que dit-il ? Il dit que ce motu proprio summorum pontificum est simplement un acte de tolérance. Un acte de tolérance. Entre parenthèses, je ne veux pas être trop violent, mais l'objet de la tolérance, c'est un mal. Hein. C'est un mal moindre en vue d'un plus grand bien. Un acte de tolérance dans un but pastoral pour des personnes qui ont été formées dans cette liturgie, l'aiment, la connaissent et veulent vivre avec cette liturgie. C'est un petit groupe, parce que cela suppose une formation en latin, une formation dans une culture certaine. C'est le milieu parisien évoqué par le cardinal Lustiger, n'est-ce pas, hein ? La messe de Saint-Pie V, c'est le milieu BCBG de Paris. C'est un petit groupe, parce que cela suppose une formation en latin, une formation dans une culture certaine, mais pour ces personnes, avoir l'amour et la tolérance de permettre de vivre avec cette liturgie, cela me semble une exigence normale de la foi et de la pastorale d'un évêque, de notre Église. Voilà le sens de la béature. Je crois qu'il est là. Benoît XVI, qui est un homme consciencieux, se sent obligé d'adopter une attitude pastorale, charitable, tolérante, à l'égard de ces pauvres fidèles qui ont du mal. Vous voyez, quand on fait ce qu'on appelle le... Comment dirais-je ? Je ne prononce pas bien la langue anglaise, vous me pardonnerez, mais on parle de coaching, n'est-ce pas ? Alors, bon, j'ai dû m'intéresser à cela dernièrement parce que j'aide un de nos braves fidèles qui fait une formation. Et alors, ça m'a intéressé parce que il y a, c'est très important, il y a ce qu'on appelle la gestion du changement. C'est-à-dire, lorsque vous allez modifier la structure d'une entreprise, quelle qu'elle soit, c'est très bien, on fait un projet, mais alors il faut gérer le changement parce qu'il y a le personnel. Et les gens vont devoir changer d'habitude et ils auront du mal. Et alors, il faut savoir communiquer, dialoguer, il faut savoir attendre, patienter. C'est un peu ça finalement, il me semble. L'esprit de ce motu proprio de Benoît XVI, c'est du coaching en matière liturgique. C'est la gestion du changement. Et la gestion du changement dans l'Église, qu'est-ce que c'est ? Quel est le mot qui exprime bien cela ? C'est l'idée de la réception. C'est ça. L'idée de la réception. Et Dieu sait si le cardinal Ratzinger, et avant lui le théologien Joseph Ratzinger, dès le moment du concile, était conscient de toute cette importance de la réception. Il en parle très souvent. Et nous avons chez lui, dans ses œuvres, c'est une idée récurrente. Et alors il termine en disant « Il n'y a aucune opposition entre la liturgie renouvelée par le Concile Vatican II et cette liturgie. » Voilà, un acte de tolérance. Et alors, nous avons ici notre principe. Vous voyez, ce serait facile, je ne le ferai pas, parce que voilà, vous le savez, j'oserais même dire que nous ne le savons que trop, il y a une analogie possible avec le droit du mariage. Nous avons à propos du mariage une forme ordinaire, et puis nous avons une forme extraordinaire. Qu'est-ce que c'est que la forme extraordinaire ? C'est une forme subsidiaire. Elle est licite, si et seulement si il y a un grave inconvénient à recourir à la forme ordinaire. Alors transposée, hein. Ça veut dire qu'il est licite d'utiliser le missel de Saint-Pie V si et seulement si il y a un grave inconvénient de recourir au missel de Paul VI. Inconvénient pour qui ? Pour l'Église. Pour l'unité de l'Église, justement. Et c'est ce que disait déjà Jean-Paul II dans son motu proprio Ecclesia Dei Afflicta. C'est bien ça. Nous avons affaire à une nécessité pastorale. Et le principe, eh bien, c'est que l'extraordinaire n'est pas appelé à devenir ordinaire. Comme si la coexistence des deux missels devait devenir une norme. Et François, dans Traditionis Custodes, ne fait que tirer la conclusion tout à fait logique. Cette notion de forme extraordinaire n'a pas été entendue ni mise en œuvre correctement. On a reçu le motu proprio de Benoît XVI comme une espèce de blanc-seing, et comme si, au-delà des formules précautionneuses, le pape avait eu l'intention d'établir une véritable cohabitation liturgique dans l'Église. Et pas du tout. Et François, eh bien, ici, nous précise, nous rappelle la véritable intention du motu proprio de Benoît XVI. Et il en tire les conséquences. Alors, je vous cite ici un texte très intéressant. C'est la réponse de Mgr Rey à M. Éric de Saventem, Mgr Rey qui était pour l'heure le substitut à la secrétaire d'État. Et la question posée était de savoir si l'on pourrait accorder à l'ancien missel un statut égal en droit et dignité à celui du nouveau. Donc la réponse date du 17 janvier 1994. Elle est citée par le livre « Enquête sur la messe traditionnelle » publié par les éditions de la Nef en 1998, à la page 385. Je vous cite Mgr Rey. « Par le motu proprio Ecclesia Dei, l'usage du missel romain, approuvé en 1962, a été concédé à certaines conditions. Les diverses dispositions prises depuis 1984 avaient pour but de faciliter la vie ecclésiale. » Voilà. Voilà le grand principe. Faciliter la vie ecclésiale d'un certain nombre de fidèles sans pérenniser pour autant les formes liturgiques antérieures. La loi générale demeure l'usage du rite rénové depuis le Concile, alors que l'usage antérieur relève actuellement de privilèges qui doivent garder le caractère d'exception. Benoît XVI dira exactement la même chose. Simplement, il le dira à sa façon, de manière technique, formalisée, précise, rigoureuse, dans une formule qui, dans son esprit, était destinée à devenir juridique, canonique. Et François retient toujours cette formule-là. Il se base toujours sur ce principe. Simplement, il l'applique différemment parce qu'il s'aperçoit que la tolérance risque de se retourner contre le tolérant. Parce que l'application de ce motu proprio, au lieu de favoriser l'unité de l'Église, selon l'intention de Benoît XVI, finit par la mettre en péril. Parce que la réception du motu proprio chez ceux qui étaient intéressés par la chose ne correspond plus à l'intention du pape. En pratique, on voudrait recevoir le missel de Saint Pie V comme une forme ordinaire. Et donc, je réponds à ma question et je conclue cette première partie. La messe de Saint Pie V, telle qu'envisagée par Benoît XVI et François, dans le même souci d'unité pastorale de l'Église dans sa liturgie, n'est pas un facteur de division. La division n'est pas au sein de l'Église conciliaire. L'usage que les papes de cette Église conciliaire entendent faire de cette messe ne divise pas l'Église dans leur intention, bien au contraire. Elle est régulée par un souci pastoral, elle est au service de l'unité de cette Église conciliaire dans la dépendance du Novus Ordo Missae. Alors, je vais vous résumer de manière à respecter le timing. Je vais vous résumer ma deuxième partie. Cette unité de l'Église conciliaire qui se veut centrée sur la forme ordinaire du missel de Paul VI avec la forme subsidiaire du missel de Saint Pie V, c'est une fausse unité. Évidemment, nous le savons. Pourquoi ? Parce que les deux missels ne sont pas... C'est faux. C'est faux. Et c'est là où Benoît XVI introduit un principe moderniste. Les deux missels ne sont pas les deux expressions complémentaires d'une même messe, d'un même rite. Il y a deux messes. Il n'y a pas seulement deux missels, il y a deux lex orandi et il y a deux rites qui sont contraires. Alors cela, je n'y reviens pas, a été abondamment prouvé, signalé, dit au pape, par le bref examen critique que vous connaissez. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous parlons très justement, c'est notre vocabulaire et il faut le garder, n'est-ce pas ? Nous parlons de nouvelles messes, nous parlons de nouveaux rites, nous parlons de novus ordo. Et la nouveauté ici doit prendre un sens très précis. Elle doit s'entendre non pas au sens d'une succession ou d'une continuité, mais au sens d'une rupture. Il n'y a pas deux formes ordinaires, complémentaires, l'une, deux formes complémentaires, l'une ordinaire, l'une extraordinaire, dont l'une serait subsidiaire par rapport à l'autre, il y a deux formes antagonistes, parce qu'il y a deux rites antagonistes. Alors, c'est ici que je me résume. Hein. Cet antagonisme, il apparaît d'abord dans le rite lui-même de la messe, c'est-à-dire dans l'agencement des paroles et des gestes qui fait le rite de cette nouvelle messe, agencement nouveau qui va concourir à une signification nouvelle, signification allétérée par omission. Et ce qui résume bien cette idée, c'est l'expression du bref examen critique qui nous dit que ce nouveau rite s'éloigne, c'est le mot, il est important, s'éloigne de manière impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la définition de la messe catholique. C'est une diminution de la signification par omission, en particulier sur le plan de la signification et de la définition de la messe. Cela, vous le savez, je n'y reviens pas. Mais cette nouveauté, ne l'oublions pas, correspond surtout, fondamentalement, à l'intention avérée du Concile, qui a voulu la réforme dans un but très précis. Et ce but très précis, eh bien, c'est Mgr Bunini, le principal artisan de cette réforme, qui nous l'indique, n'est-ce pas, lorsque il nous dit que je cherche la citation, voilà. Il nous parle de ce qui est la clé de la réforme liturgique. Cette clé n'est autre que le but, la cause finale de la réforme. Et je le cite, « La participation et l'implication active du peuple de Dieu dans la célébration liturgique sont la finalité de la réforme. » C'est ça qu'ils ont voulu. Et en fait, cette réforme liturgique s'explique fondamentalement par l'idée d'une église communion. C'est-à-dire que cette réforme de la liturgie s'explique déjà elle-même par une réforme de la notion de l'église. Et alors, je vous donne une citation du père Cabier. Le père Cabier était pour l'heure, en 1969, l'un des principaux rédacteurs de la revue La Maison Dieu, qui était en quelque sorte l'organe de la théologie de la liturgie. C'est dans le numéro 100. Le père Cabier fait remarquer, dans le commentaire qu'il donne de la réforme liturgique, il dit que la présentation générale du Novus Ordo a une forme toute différente de celle des rubriques générales du missel de Saint Pie V, et il est d'avis que l'on ne saurait trop se réjouir d'une telle transformation. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouvel esprit qui se manifeste en particulier dans la préoccupation constante et primordiale de l'Assemblée tout entière, présentée, et c'est là le point important, présentée comme le premier acteur de la célébration. Et c'est ça la nouvelle messe. Et c'est la définition de la messe. Qu'est-ce que c'est que la messe ? C'est le rassemblement du peuple de Dieu sous la présidence du prêtre. Paul VI l'a rajouté après coup pour rassurer les âmes inquiètes. Mais c'est d'abord le rassemblement du peuple de Dieu, primo et percé, comme on dit en bonne scolastique, d'abord et avant tout. Et il est dit même dans l'Institutio Generalis, dans la version revue par Jean-Paul II en 2002, il est dit justement très clairement que c'est cette assemblée qui est l'acteur principal de la célébration de la messe. Alors tout cela vous renvoie à Lumen Gentium. L'Église, c'est d'abord le peuple de Dieu, la communauté des baptisés qui participent au triple pouvoir du Christ, n'est-ce pas, le sacerdoce commun, le sanctus fidei. Ils sont prêtres, rois et prophètes, et le magistère est là à leur service. À leur service. Nous disions jusqu'ici, c'est l'expression utilisée par Pie XII dans Lumen Generis à propos du magistère. Pie XII nous dit que le magistère est la règle. Est la règle. Et voilà qu'à présent, on nous dit que c'est un service. Pourquoi ? Parce que l'acteur principal, c'est le peuple de Dieu. C'est une idée, je ne fais que le signaler au passage, c'est une idée qui est mise vraiment en exergue par Jean-Paul II dans sa toute dernière encyclique du 17 avril 2003, Ecclesia de Eucharistia, et qui est reprise par Benoît XVI dans Sacramentum Caritatis en février 2007. Au-delà de certains rappels traditionnels sur la théologie de la messe proprement dite, concernant la transsubstantiation, eh bien, l'idée centrale de ces deux textes, c'est que la célébration du mémorial est l'affaire du peuple de Dieu tout entier. Moyennant quoi, il y a un lien très étroit entre l'Église et l'Eucharistie. Et je vous cite Benoît XVI dans un passage très important, c'est le numéro 15 de Sacramentum Caritatis. Le serviteur de Dieu de Jean-Paul II, dans son encyclique Ecclesia de Eucharistia, avait déjà attiré l'attention sur la relation entre Eucharistie et communion. Il a parlé du mémorial du Christ comme de la plus haute manifestation sacramentelle de la communion dans l'Église. L'unité de la communion ecclésiale se révèle concrètement dans les communautés chrétiennes et elle se renouvelle dans l'action eucharistique qui les unit et qui les différencie en Église particulière. Et alors il dit ceci, il dit que l'Eucharistie est donc constitutive de l'être et de l'agir de l'Église. Parce que l'Eucharistie, c'est le peuple de Dieu rassemblé pour exercer son acte principal, qui est celui d'un témoignage, qui est celui précisément d'un sacrement, parce que c'est dans l'Eucharistie que le peuple de Dieu donne en spectacle, de manière très visible, sa propre communion, qui est un appel à l'unité du genre humain. Je conclue très rapidement, en deux mots. Il y a deux messes et il y a deux rites, et pas seulement deux missels, parce qu'il y a deux ecclésiologies. La question qui se pose alors, ou plutôt la réponse qu'appelle cette question, c'est de savoir pourquoi nous sommes attachés à la messe du Saint-Pie V. Nous sommes attachés à la messe du Saint-Pie V parce que nous ne voulons pas accepter, parce que nous refusons le Novus Ordo Missae, dans un premier temps. Le refus de la Lex Orandi de Paul VI est la raison profonde de notre attachement à la Lex Orandi de Saint-Pie V, dans un premier temps. Alors, je vous rassure, nous ne sommes pas négatifs dans la fraternité, nous sommes au contraire très positifs. Dans un deuxième temps, ce refus de la Lex Orandi de Paul VI s'explique lui-même par quelque chose de très positif, notre obéissance, notre attachement indéfectible à la loi de la croyance déjà manifestée par cette Lex Orandi du missel de Saint-Pie V. Legem credendi statuat lex supplicandi. C'est parce que la messe de Saint-Pie V nous a déjà indiqué ce qu'il faut croire et que nous y croyons, c'est pour cela que nous refusons une nouvelle loi de la croyance qui nous induit à remettre en cause notre foi. C'est, il me semble, ce que Mgr Lefebvre a toujours dit et répété. Autrement dit, le problème liturgique est d'abord un problème doctrinal, un problème de bien commun. S'il ne l'est pas, que sera-t-il ? Ce sera un problème de bien particulier, de préférence personnelle, et vous le savez, de la primauté du bien commun contre les personnalistes, le bien particulier doit toujours céder en faveur du bien commun dans la Sainte Église de Dieu. Ce sera tout au plus un problème d'esthétique ou de sensibilité, mais la messe de Saint-Pie V ne pourra se revendiquer qu'au titre d'une simple tolérance. Je conclus, monsieur l'abbé, c'est l'illusion libérale. Alors, en disant cela, je ne parle pas de pauvres personnes, je parle en me plaçant sur le plan des principes. C'est l'illusion libérale de croire que l'erreur tolérera toujours la vérité. Je vous remercie.
Cher monsieur l'abbé, merci et pardon. Merci pour cet exposé. Pardon de vous avoir obligé à l'écourter quelque peu. C'est vrai que le temps nous presse. Mais dans ce que vous nous avez dit, nous avons bien vu, comme toujours d'ailleurs dans ces congrès, combien les exposés se complètent les uns les autres, vous enrichissez, vous apportez, et c'est très, très encourageant. Encourageant. Soyez rassurés, chers amis, ce qui n'a pas pu être dit pourra être lu, puisque les actes vous permettront de prendre connaissance de l'intégralité des communications. Je vous rappelle, tous les conférenciers sont obligés eux-mêmes de restreindre un petit peu. Vous n'avez qu'une petite partie de ce qu'ils ont préparé, et donc vous pouvez avoir, en particulier avec les notes, les références. Donc un grand merci pour tout. Merci d'avoir fini sur Veuillot et l'illusion libérale. Maintenant, vous pouvez, ceux d'entre vous qui le souhaitent, assister à la messe qui va être dite exactement donc à 12h15 à la chapelle supérieure par Monsieur l'abbé Delacoste. Nous nous retrouvons pour 15 heures précises et nous aurons là l'exposé de Monsieur Dominique Vien qui nous fait l'amitié d'être parmi nous. À tout à l'heure.